Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait une semaine que George Floyd est mort étouffé sous le genou d'un policier de Minneapolis. Une semaine et six nuits maintenant que de nombreuses villes américaines sont le théâtre parfois d'émeutes, mais surtout de manifestations pour demander justice, car George Floyd n'est pas le premier afro-américain à subir ce sort, et les policiers impliqués ne sont pas si souvent condamnés. Depuis plusieurs années, le mouvement sans leader, Black Lives Matter, les vies noires comptent, se bat contre le racisme, les violences et l'impunité dans les milieux de la police et de la justice aux États-Unis. Quel droit et quelle justice pour les Afro-Américains ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct et en ligne avec nous ce soir. Pape Ndiaye, bonjour. Pape Ndiaye ? Vous êtes avec
oui.
nous? Oui, vous êtes historien, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux livres dont l'histoire de Chicago aux éditions Fayard. Et en attendant, une histoire du droit de vote, c'est à paraître cet automne. Charlotte Recoquillon, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique et spécialiste des États-Unis. Et Éric De Salve, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI dans l'ouest des États-Unis et vous couvrez les manifestations de Minneapolis depuis une semaine. Éric De Salve, on va revenir sur ce qui se passe actuellement puisque vous êtes sur place. Tout est parti de la mort de George Floyd à Minneapolis au cours d'une arrestation particulièrement musclée et violente, et il y a désormais des manifestations dans des dizaines de villes aux États-Unis. Qu'est-ce qu'expriment les manifestants ? De la colère, on s'en doute, mais ils demandent surtout justice ?
Oui, écoutez, je me trouve, Guillaume, justement à l'épicentre, là où tout est parti, devant ce restaurant Cup Food, là où tout est arrivé, là où George Floyd a été tué il y a une semaine maintenant. Son frère va parler dans quelques minutes devant plusieurs manifestants qui se réunissent là tous les jours. Ce qui est important de noter, et peut-être on ne le dit pas assez sur nos antennes, c'est qu'on a une foule qui est très très mixte. Il n'y a pas que des Noirs. Ça, les gens le disent. Le disent beaucoup, il ne s'agit pas d'émeutes raciales, ça c'est des choses qu'on entend dans la bouche des manifestants. Il y a beaucoup de blancs qui sont là aussi, qui manifestent. Les noirs qui sont là, ils appellent nos alliés d'ailleurs. Et tous ont la même revendication, c'est-à-dire qu'ils ont été satisfaits de l'arrestation et de l'inculpation du policier Derek Chauvin cette semaine, mais c'est insuffisant à leurs yeux, parce que d'une part, il y a trois autres policiers qui sont restés passifs devant le drame pendant 8 longues minutes. Et puis, tous disent ici que le problème des violences policières aux États-Unis, le problème du racisme au sein de la police américaine, c'est un problème qui est beaucoup plus large que ces quatre policiers. C'est un problème qui est systémique ici. Tous emploient ce terme de systémique. Et puis, il faut se rappeler que ici, dans cette ville de Minneapolis, il y a 3 ans, les habitants en étaient déjà là après la mort, une autre vidéo qui avait sidéré la ville, qui avait choqué le pays, une vidéo d'un père de famille tué dans sa voiture lors d'un banal contrôle routier devant son bébé et devant sa femme parce que le policier pensait qu'il allait saisir une arme dans la boîte à gants. À l'époque, des manifestations avaient eu lieu, ces manifestations étaient pacifiques dans la ville de Minneapolis. Et les gens ici disent souvent, beaucoup, que 3 ans après ces manifestations pacifiques, ils n'ont pas été entendus. Alors, si les manifestations pacifiques ne sont pas entendues, la violence peut être un recours légitime à leurs yeux. La violence, c'est-à-dire incendier, c'est-à-dire se faire entendre pour que cette rage, que cette colère soit entendue cette fois-ci.
Alors, Éric De Salve, on reste avec vous évidemment tout au long de cette émission. Pape Ndiaye, que vous inspire ce que vous entendez actuellement et que vous inspire ces manifestations ?
C'est tout à fait frappant en effet de voir à quel point ces manifestations s'inscrivent dans une longue histoire qui est celle des protestations contre les violences policières qui sont très très anciennes aux États-Unis, en particulier celles qui frappent les Africains-Américains. Martin Luther King en parlait déjà beaucoup au début des années 60. Et en même temps, il y a des nouveautés, il y a des particularités cette fois-ci. Par exemple, le fait que beaucoup de manifestants, soit des Américains blancs, ce qui n'était pas le cas de la même manière, en tout cas, à Ferguson en 2014. Et puis l'extension aussi nationale, presque même internationale, des manifestations va bien au-delà de ce qu'on pouvait voir en 2014. Dans des endroits, dans des États, je pense au Colorado, à l'Iowa ou au Dakota du Nord ou Dakota du Sud, qui sont des États où la population africaine-américaine est très réduite. Alors ensuite, la question de la qualification de ces événements se pose en effet. Est-ce qu'il s'agit d'émeutes raciales? Je pense que non, ni du point de vue de la qualification raciale, on vient de le dire, mais ni du point de vue non plus des émeutes. Le vocabulaire de l'émeute qui renvoie à ce qui a pu se passer dans les années 60, à Los Angeles aussi en 1992, avec un niveau de violence qui était très très supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors évidemment qu'il y a des formes de violence avec des voitures qui brûlent et puis des saccages urbains. Il y a aussi le lot habituel de pilleurs et de casseurs et de provocateurs. Mais dans l'ensemble, le niveau de violence n'a rien à voir avec ce que les États-Unis ont pu connaître par le passé. Les manifestants veulent se faire entendre. Ce sont des manifestations très véhémentes et avec quelques raisons, ma foi. Mais je ne parlerai pas, quant à moi, d'émeutes raciales, ni du point de vue de l'émeute, ni du point de vue racial, en tout cas du point de vue de ceux qui manifestent.
Charlotte Recoquillon, vous suivez depuis plusieurs années ces questions de violence policière et de violence raciale et le mouvement Black Lives Matter. L'extension de ce mouvement à de très nombreuses villes d'abord et puis à une population peut-être inhabituelle, ça vous surprend ?
Ça ne me surprend pas forcément, même si évidemment on ne prédit pas forcément ce qui va se passer quand on est chercheur en sciences sociales. Mais en tout cas, je voulais effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pape Ndiaye sur la question de la violence notamment et de la légitimité de la tension de la violence. Et je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi le résultat du travail qui a été engagé sur le terrain depuis plusieurs années par Black Lives Matter notamment, qui a fait un gros travail de pédagogie, qui a fait que les injustices qui jusque-là étaient perçues plutôt par les Noirs américains, mais pas par les Blancs américains, est maintenant indigne maintenant le reste de la société civile, ou en tout cas une grande autre partie de la société civile. Et ça, je crois que c'est aussi le fruit de leur travail de sensibilisation sur l'injustice structurelle qui rigue la société américaine.
Oui. Éric de Salve, on va revenir, si vous le voulez bien, sur la situation des policiers que vous avez évoqués tout à l'heure. Il y en a donc un qui est inculpé de meurtre au troisième degré, c'est-à-dire d'homicide involontaire. Les trois autres ne sont pas inquiétés pour l'instant. Ils sont où ? Ils sont chez eux ? Enfin, comment ça se passe ?
Alors ça, c'est une information que je n'ai pas, pour tout vous dire, Guillaume. On ne sait pas exactement où ils sont, évidemment, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient ravis d'avoir cette information et de se rendre et de les trouver, parce qu'il y a une vraie colère, une vraie envie de vengeance de la population ici contre ces quatre policiers et ces trois en particulier qui n'ont toujours pas été inculpés. Ça fait partie des grandes demandes des manifestants que ces trois policiers soient inculpés et puis que les autres comprennent, changent leur façon de faire, leur façon de s'adresser à la population, le langage qu'ils emploient. Le pour rappeler que Derek Chauvin avait été sous le coup de 18 plaintes dont auprès de sa hiérarchie. Il avait fait l'objet de deux blâmes, notamment l'un d'eux pour utilisation de langage inapproprié, hein, selon la qualification administrative américaine, lors d'une intervention. Donc ce que demandent les gens, c'est qu'au minimum, les policiers qui ont déjà, qui sont un petit peu, si vous voulez, des moutons noirs, qui ont déjà des plaintes, et il semblerait qu'ils soient assez nombreux, qu'au moins ces policiers soient écartés. Donc ça fait partie plusieurs revendications beaucoup plus larges que l'inculpation des trois policiers qui est toujours attendu ici.
Pape Ndiaye, les manifestants réclament justice. C'est parce que, évidemment, ils estiment que d'habitude, ils ne l'obtiennent pas. Il y a assez peu de conséquences pour ce genre d'acte habituellement.
Exactement. Et là, la qualification judiciaire est importante puisque Derek Chauvin a été inculpé et écroué pour homicide involontaire, ce qu'on appelle aux États-Unis les third degree murder. Et on sait bien, par les exemples du passé, que les policiers qui sont inculpés pour ce genre de motifs s'en sortent toujours, ils sont toujours acquittés. Un policier qui commet un homicide involontaire est nécessairement acquitté. C'est pourquoi les manifestants réclament que ce policier soit inculpé pour first degree murder, c'est-à-dire pour meurtre, pour assassinat. Et là, évidemment, le processus judiciaire change et les perspectives d'acquittement s'éloignent. Et donc, il y a une longue histoire, en fait, qui est une histoire d'impunité pour les policiers qui commettent des meurtres. On l'a vu à Ferguson, on l'a vu à Baltimore, à New York et ailleurs également ces dernières années. On sait qu'ils s'en sortent parce qu'il y a des lois qui les protègent beaucoup. La Cour suprême a également pris des décisions qui vont tout à fait dans le sens d'une protection des agissements des policiers, y compris lorsque ces agissements sont illégitimes. Il y a également les syndicats aussi qui sont puissants et qui interviennent lourdement dans le processus judiciaire en payant les meilleurs avocats. Bref, on sait que généralement les policiers s'en sortent et sont acquittés. Et donc l'une des demandes des manifestants, c'est justement la requalification judiciaire pour éviter un acquittement. Et ils se fondent pour cela sur cette longue histoire d'acquittement.
Oui, Charlotte Coquillon, des policiers condamnés, il y en a pas. Il faut, enfin, c'est rarissime.
Alors c'est rarissime parce que c'est déjà assez rare qu'ils soient même inculpés et puis ensuite qu'ils soient condamnés, et quand ils sont condamnés, qu'ils soient condamnés à des peines significatives. Tout ça, Papendia vient de l'expliquer. Ça s'explique à la fois pour des raisons de volonté politique ou individuelle, et aussi parce qu'il y a dans la loi et dans les structures et dans les relations entre la justice et la police des mécanismes qui protègent effectivement les policiers. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que évidemment qu'il y a une demande légitime de justice qui passe par la condamnation de ces policiers, mais le problème ne s'arrête pas là. Évidemment qu'il ne s'agit pas de débarrasser la police seulement de quelques individus qui seraient racistes et qui seraient malfaisants ou malveillants au sein de leur institution. Le problème est beaucoup plus structurel et il passe par la question des financements de la police, par la question des formations des policiers, de leur recrutement, par la question de leurs droits et des syndicats et des règlements locaux, par tout un tas de mécanismes et de politiques publiques, y compris de militarisation de la police, etc., qu'il faut absolument réformer si on veut réduire de manière significative les violences policières. Et là, on parle uniquement des violences policières et même pas des autres inégalités raciales américaines.
Oui, Éric de Salve, ce que dénoncent les manifestants, c'est un racisme systémique au sein de la police. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y ait des quelques policiers qui sont racistes, mais c'est le système entier qui s'attaque plus facilement aux Noirs qu'aux autres.
Oui, c'est des histoires qu'on entend souvent, mais qui sont toujours très choquante, surtout pour un public français à entendre. C'est des gens qui vous racontent que ils ont peur dès qu'ils voient une voiture de police, qu'ils apprennent à leurs enfants à comment se comporter lors d'une intervention de police. Un banal contrôle routier, immédiatement les mains en l'air, enlevez la cagoule, faites attention à tout ce que vous faites, chaque geste peut entraîner la mort. Les gens demandent simplement, c'est une phrase qu'on entend régulièrement ici à Minneapolis dans la bouche des gens, que la police arrête de nous tuer. C'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Les gens sont dans cette situation-là. Ils sont pour eux, la police qui est censée les protéger, la force publique, en fait, est pour eux une menace. Donc c'est tout simplement ça qu'ils demandent, ce paradigme qu'ils demandent d'inverser. Et c'est quelque chose qu'on entend dans la bouche de tous les manifestants.
Ouais. Pam Diaye, un noir aux États-Unis est-il considéré comme suspect de manière systématique? Est-ce que c'est risqué d'être noir aux États-Unis et de se promener dans la rue? Voilà.
Oui, les mères noires disent à leurs enfants, particulièrement leurs garçons, de faire attention lorsqu'ils rencontrent une patrouille de police, dans leurs gestes, dans le fait de bien montrer ses mains, de faire des mouvements lents, parce qu'elles s'inquiètent pour eux. Il n'y a pas simplement et seulement des rencontres très, très violentes et des meurtres comme on vient de le voir à Minneapolis, mais il y a aussi, dans certaines villes, c'était le cas à Ferguson il y a quelques années, un quotidien aussi pour les Africains-Américains, qui est un quotidien de harcèlement, d'amendes répétées pour des peccadilles, de vérifications incessantes de telle ou telle part de la voiture pour les automobilistes. Bref, il y a quelque chose là qui est extrêmement problématique dans de très nombreux départements de police et qui va en effet au-delà du mouton noir qu'il s'agirait d'écarter de la police pour racisme. Il y a des éléments structurels, on vient de le dire, dans la police américaine, qui remonte d'ailleurs à une histoire qui est son histoire propre, la professionnalisation de la police américaine à partir de la fin du 19e siècle dans des villes du sud des États-Unis, puis aussi dans les villes du nord, avec la grande migration des Africains-Américains, eh bien, elle s'est faite justement autour du contrôle, de la répression, de l'arrestation des Noirs américains. C'est donc quelque chose qui est très, très structurel. Il ne s'agit pas simplement de toiletter la police américaine en espérant que les choses iront mieux par la suite. Il y a quelque chose de très, très profond dans la manière dont la police américaine agit. Et ça va tellement au-delà, d'ailleurs, des individus, des policiers eux-mêmes, que, on l'a vu à Baltimore il y a quelques années, ce sont parfois des policiers africains-américains eux-mêmes qui sont inculpés pour des violences commises contre d'autres Africains-américains. Donc on voit bien là la dimension structurelle. On parle de racisme systémique, en effet, quand on parle de la police américaine. Et on parle aussi, évidemment, d'une police qui est très décentralisée, sur laquelle le gouvernement fédéral n'a pas directement la main, puisque ce sont les municipalités et puis aussi les États, pour ce qui concerne la police d'État et puis la garde nationale, qui recrutent, qui payent et qui énoncent les doctrines de maintien de l'ordre. Donc le gouvernement fédéral lui-même a des moyens d'action qui ne sont pas inexistants, mais qui sont quand même relativement limités, pour changer en profondeur la police américaine. On est dans une situation très différente de la France, où en France, il existe une police nationale avec un recrutement, une formation organisée par l'État. C'est très différent aux États-Unis.
Oui, Charlotte Coquillon, c'est la question que j'allais vous poser, et Pape Ndiaye vient de nous l'expliquer. Aux États-Unis, la police est souvent municipale. Et finalement, quand le maire est noir, quand le chef de la police est noir, finalement, ça change pas grand-chose.
Bah non, c'est Kian Gayamata Taylor qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui montre bien qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des visages noirs à des postes de pouvoir pour changer tout un système. Ce que Pape Ndiaye vient d'expliquer sur l'intériorisation des préjugés racistes et raciaux, qui font que les individus eux-mêmes appartiennent à la société américaine et sont donc eux-mêmes traversés par des préjugés racistes. Et ces préjugés-là traversent toutes les classes sociales. Il n'y a pas une classe sociale qui met à l'abri du préjugé raciste. On l'a vu dans de nombreux incidents où on peut être tout à fait correspondre aux critères dominants de conformité sociale en étant en costume, cravate, etc. et quand même être arrêté par la police et quand même être malmené. Voilà, ça ne protège pas. Donc tous les discours sur la respectabilité et la conformation à des critères sociaux ne protège pas non plus les Noirs américains.
Éric Desalves, est-ce que les interlocuteurs auxquels vous avez pu parler vous disent que la situation depuis quelques années, allez, depuis Ferguson, depuis les émeutes de Ferguson, est-ce que la situation, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'elle empire ?
En fait, c'est que le racisme n'a pas empiré, il est tout simplement filmé aujourd'hui. Et vous voyez ici, chaque manifestant presque a son téléphone allumé. Tout est filmé, tout est archivé, tout est documenté. Et tous saluent ces passants qui ont filmé pendant cette éternité, ces 8 minutes, la mort de George Floyd. Parce que sans cette vidéo, cette drame serait passé totalement inaperçu, n'aurait pas déclenché ce qu'il a déclenché. Et donc, tout est documenté, tout est filmé, et ça c'est vrai que c'est aussi une des stratégies des militants ici, pas seulement des simples manifestants, des anonymes, c'est de faire attention à ce que tout soit bien diffusé, tout soit filmé.
Pam Diaye, les Noirs et les Blancs, depuis les droits civiques, hein, ils ont en principe les mêmes droits. Est-ce que c'est le cas dans la réalité? Est-ce que, par exemple, un Noir a à peu près le même droit de circulation, pour prendre un exemple, qu'un Blanc?
Sur le papier, oui, mais la réalité est différente. L'égalité des droits juridiques, elle ne s'est pas traduite de façon mécanique par une égalité des droits réelle dans la vie concrète des individus. En ce qui concerne la police, c'est absolument évident, mais c'est vrai aussi du système judiciaire en général, qui condamne beaucoup plus lourdement les Africains-Américains que les Américains blancs, par exemple, et puis on pourrait prendre d'autres exemples. Et donc là, il y a bien un écart qui est très significatif, et c'est peut-être aussi une différence entre 2014 et aujourd'hui, entre les émeutes de Ferguson et celles d'aujourd'hui, ou émeutes, en tout cas manifestations, dans la mesure où il y a quand même eu entre-temps l'élection de Trump. Et le président américain a fait des clins d'œil quand même très très appuyés du côté des suprémacistes blancs. On l'a vu pendant l'été 2017 à Charlottesville, quand il a trouvé que les néo-nazis, il y avait des gens très bien parmi eux. Il a soutenu également les mouvements de droite dure dans la police du type Blue Lives Matter pour fustiger le mouvement Black Lives Matter, avant même d'ailleurs son élection à la présidence. Et donc le fait qu'à la Maison-Blanche, il y ait un tel président qui rappelle par son comportement et par ses déclarations les gouverneurs ségrégationnistes de l'Alabama ou du Mississippi des années 50 ou 60, cela peut jouer aussi un rôle dans le comportement des forces de police qui se sentent en quelque sorte couvertes, en quelque sorte protégées. Oui. Et puis il y a un dernier élément aussi qui est particulier à la situation que nous vivons, c'est évidemment la crise sanitaire et économique. 100 000 Américains sont morts du Covid, parmi eux un quart d'Africains américains, ils sont donc très très surreprésentés, ils sont également très surreprésentés du côté du chômage et de l'explosion du chômage, des difficultés économiques. Et là aussi, il y a un sentiment de colère, le sentiment que le gouvernement fédéral ne s'occupe pas des plus pauvres, des plus marginaux. Et ces éléments pris ensemble permettent aussi, je pense, d'appréhender la gravité de la crise qui est à la fois une crise sanitaire, sociale, mais aussi maintenant une crise politique.
Oui. Charlotte Coquillon, Pape Ndiaye parlait à l'instant de politique. J'ai envie de vous demander si les 8 ans de présidence de Barack Obama ont changé quelque chose. On rappelle que Barack Obama, même s'il est noir, ne s'est jamais revendiqué comme le président des Noirs. Est-ce qu'il a essayé d'améliorer leur sort?
Alors, évidemment qu'il ne s'est pas présenté comme le président des Noirs, d'une part parce que tactiquement et stratégiquement,
oui, il a bien pris soin, effectivement. Oui.
Mais aussi parce que ce n'est pas du tout l'objectif de revendication d'égalité raciale que d'avoir un président pour les Noirs, un président pour les Blancs. Évidemment que ce n'est pas l'objectif politique. Barack Obama, il avait des pouvoirs qui étaient relativement limités et une marge de manœuvre qui, paradoxalement, même si symboliquement, effectivement, ça représentait énormément qu'il soit le premier président noir des États-Unis. En même temps, ça le contraignait à justement faire attention à ne pas apparaître comme le président des Noirs. Donc il a fait attention pendant tout son premier mandat à apparaître comme au-dessus de la mêlée jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par l'affaire Trayvon Martin et l'acquittement de George Zimmerman. Donc après, est-ce qu'il aurait obtenu plus en étant plus radical? C'est pas sûr. De toute façon, il n'avait pas un programme qui était spécialement progressiste et radical. Voilà. Après, ce que ça a changé, c'est que déjà, même sous Barack Obama et même avec donc des revendications, des progrès relativement limités pour les Noirs américains à ce moment-là, malgré ça, ces progrès-là ont été perçus comme déjà trop pour une partie des blancs américains et des classes moyennes blanches qui se sentaient menacées et fragilisées par des potentielles revendications d'accès à l'égalité par les Nord-Américains. Donc c'est pour ça qu'on a eu après ce retour de bâton et l'élection de Donald Trump pour mettre un coup d'arrêt au progrès perçu par les Nord-Américains dans le deuxième mandat de Barack Obama.
Éric De Salve, est-ce que c'est quelque chose qui vient à l'esprit des manifestants, que peut-être ces manifestations tendues, parfois violentes, elles peuvent être contre-productives? Est-ce qu'on espère que ça va changer quelque chose, plutôt en bien, mais est-ce qu'on a cette idée que ça risque aussi de changer les choses en mal?
Alors, je suis pas sûr d'avoir très bien entendu votre question, Guillaume, mais je vais essayer quand même d'y répondre. Sur la question de la violence, on a vu une évolution ici à Minneapolis. La violence est apparue le second et le troisième soir, surtout. C'était une violence qui était très circonscrite à certains quartiers. Hein. La ville entière n'était pas à feu et à sang, essentiellement autour de une artère principale de la ville qui s'appelle Lake Street. Évidemment, lorsque c'est là que se trouve ce commissariat, le Second Precinct, qui a été incendié par les manifestants. À ce moment-là, quand on posait la question à ces manifestants sur le vif, au moment où ils étaient en train d'incendier ce commissariat, tous avaient des revendications politiques. On n'avait pas affaire à une délinquance qui pillait pour le pillage. D'ailleurs, on pourra revenir sur la question des pillages, parce que beaucoup de gens pillaient des magasins pour manger, parce qu'ici, c'est un vrai problème pour les habitants. On est dans une situation d'émeute, dans un contexte de pandémie mondiale. C'est-à-dire que le confinement est encore total ici à Minneapolis. Tous les magasins sont fermés, vous n'avez plus qu'un seul supermarché d'ouvert qui est quasiment vide dans le centre-ville. Les gens ont de vrais problèmes pour trouver de la nourriture. Certains soirs, vous voyez des supermarchés qui étaient pillés par des gens qui sortaient avec des caddies remplis de nourriture, pas avec des téléviseurs, pas avec des baskets. Donc ça, c'est important de le noter. Et sur la question de la violence, quand vous posiez la question aux manifestants, tous avaient la même réponse, c'est qu'on a manifesté pacifiquement pendant des années, on n'a pas été entendu, les choses n'ont pas avancé. Donc maintenant, nous utilisons ce recours, qui est une violence qui est contenue et qui est circonscrite à certains quartiers, pour se faire entendre. Et les gens nous disaient, regardez, ça fonctionne, puisque vous êtes journaliste français, vous êtes là, est-ce que vous seriez là si des violences n'avaient pas eu lieu? Et effectivement, ils ont raison. Nous ne serions peut-être pas là. Donc, tout en ayant un discours de condamnation de la violence. La violence aujourd'hui, elle a largement diminué. Depuis deux soirs, on n'assiste plus, hier soir, il y a presque plus d'incendies, presque plus d'affrontements violents avec la police. Donc, ça a été circonscrit de façon géographique dans la ville, mais aussi dans le temps. Finalement, ici, les nuits de violence, on en compte trois tout au plus, véritablement. Même si, pour l'instant, évidemment, on est sur un temps très court et les choses peuvent évoluer dans un sens différent. Mais pour l'instant, on va plutôt dans une décrue de la violence.
Pape Ndiaye, assez rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, ce mouvement, ces manifestations peuvent changer quelque chose?
Ils peuvent au moins requalifier les agissements de Chauvin à Minneapolis et faire que le processus judiciaire soit un peu moins partial qu'à l'accoutumée, ce qui en soi ne serait pas rien et pourrait créer une forme de jurisprudence. Et puis cela aussi met au centre de la campagne électorale qui s'amorce des questions qui ne sont pas toujours au premier plan. Les questions des violences policières, le sort des Africains-Américains en général, leur situation sanitaire et sociale. Bref, c'est aussi une manière de placer de manière, disons, assez centrale dans la vie politique américaine des questions qui ont leur importance, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui ne sont pas toujours centrales dans les campagnes présidentielles.
Merci Pape Ndiaye, merci également Charlotte Recoquillon et merci Éric De Salve d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Javier González Gavilán. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous. RFI.